VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Sommet du G20 en Argentine, les leaders des 20 premières puissances mondiales se réunissent vendredi et samedi à Buenos Aires. Le premier sommet du groupe dans ce pays d'Amérique latine en pleine crise économique. Et la 10e édition du G20 depuis la première réunion de Washington. Sur fond d'escalade en Ukraine, la rencontre bilatérale entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine en marge du sommet du G20 à Buenos Aires, sur laquelle planaient encore des doutes, aura finalement lieu. Washington a confirmé la rencontre, a déclaré ce jeudi Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe, en précisant que les deux leaders s'entretiendront samedi autour de midi heure locale, une rencontre qui pourrait durer près d'une heure. Le président Trump doit aussi s'entretenir avec son homologue chinois, Xi Jinping. Objectif, tenter d'enrayer l'escalade des représailles douanières entre les deux pays qui menace la croissance mondiale. Relations États-Unis-République démocratique du Congo maintenant. Pour la 4e journée consécutive, l'ambassade des États-Unis à Kinshasa a annoncé que ses services sont fermés au public ce jeudi pour raisons de sécurité. Et ce, à un mois de l'élection présidentielle dans le pays. Les précisions de John Lyndon.
L'ambassade des États-Unis à Kinshasa reste fermée au public aujourd'hui, jeudi 29 novembre, en raison des informations dites crédibles et précises sur une menace terroriste ciblant des installations américaines à Kinshasa. C'est ce qu'on peut lire sur le site Internet de la représentation américaine. Les États-Unis encouragent fortement les citoyens américains vivant à Kinshasa et sur toute l'étendue de la RDC à maintenir un niveau accru de vigilance. Lundi, les autorités congolaises ont qualifié de psychose inutile l'alerte donnée dimanche par l'ambassade américaine sur une éventuelle menace terroriste. Elle avait conduit à sa fermeture au public et les alentours de l'ambassade étaient bouclés par les forces de sécurité. Washington a déjà appelé à des élections crédibles en RDC et la campagne a déjà commencé.
Politique au Gabon, le président gabonais Ali Bongo Ondimba, qui était hospitalisé en Arabie Saoudite, est arrivé ce matin tôt à Rabat, au Maroc, pour un séjour de convalescence et rééducation en milieu hospitalier. Le chef d'État gabonais, âgé de 59 ans, a quitté mercredi soir l'Arabie Saoudite, où il était hospitalisé depuis le 24 octobre. Aucune image n'a été pour l'instant diffusée concernant son départ de Riyad ni son arrivée vers 5h temps universel à Rabat. Agitation au Cameroun anglophone, un avocat a été brièvement enlevé à Bamenda, chef-lieu du Nord-Ouest, l'une des deux régions anglophones du pays. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
L'avocat anglophone Ben Soufou, conseiller juridique du Social Democratic Front, principal parti d'opposition, a été enlevé mardi alors qu'il venait de rentrer chez lui à Bamenda. Denis Kemlemo, chargé de la communication du SDF, a déclaré hier qu'il a finalement été libéré sans préciser si une rançon a été versée. Le SDF a affirmé auparavant que l'avocat a été enlevé par des Zamba Boys, surnom donné aux combattants séparatistes anglophones. En octobre, un maire SDF de la région du Nord-Ouest a été enlevé avant d'être libéré au bout de quelques jours. Toujours le mois dernier, dans la même région, la maison de Ni John Frundi, président du SDF, a été incendiée dans son village et sa sœur kidnappée avant d'être relâchée. Des enlèvements d'élèves ont également eu lieu. Dans les deux régions anglophones, des affrontements entre l'armée et des séparatistes ont lieu presque tous les jours. Selon Human Rights Watch, plus de 200 membres des forces de l'ordre et plus de 500 civils ont perdu la vie. D'après les Nations Unies, environ 437 000 personnes ont été forcées à fuir leur domicile.
Soudan du Sud, les armes ont continué à affluer dans le pays malgré les sanctions, selon un rapport de l'ONG britannique Conflict Armament Research, CAR, publié ce jeudi. Au terme d'une enquête de 4 années, CAR a établi comment des pays de la région, en particulier l'Ouganda, avaient contourné l'embargo pour alimenter en armes les protagonistes de la guerre au Soudan du Sud, qui a fait plus de 380 000 morts selon une étude récente.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La lutte contre Boko Haram au Nigeria, les militants du groupe djihadiste ont tué 3 soldats dans l'attaque d'une base militaire près du lac Tchad, dans le nord-est du pays, où les militaires ont été mis en déroute par les insurgés qui multiplient les opérations, selon des sources civiles et militaires ce jeudi. Des combattants du groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, une faction de Boko Haram affiliée à l'organisation de l'État islamique, sont arrivés mardi à bord de plusieurs camions et ont attaqué la base militaire du village de Kwaskau, dans l'état de Borno. Toujours au Nigeria, 3e semaine de grève des enseignants dans les universités du pays, notre correspondant Gilbert Tamba s'est rendu à l'université d'Abuja pour constater les effets de cet arrêt de travail.
Les activités académiques sont à l'arrêt ici, à l'université d'Abuja, comme dans les autres à travers le pays. Et c'est là depuis que la Coordination nationale des enseignants d'université du Nigeria a lancé son mot d'ordre de grève le 5 novembre. La grève est très suivie. Ici, pas de cours. Le personnel d'enseignants est absent et les classes sont vides. Godwin Ekimach est étudiant en 3e année de sociologie.
Cette grève affecte nos programmes académiques et nos examens. Vous savez aussi que lorsque vous restez longtemps à l'école, cela augmente votre âge. Donc parfois, si le gouvernement parle de limite d'âge, il a une part de responsabilité.
L'université d'Abuja compte plus de 60 000 étudiants et est perçue comme l'une des meilleures institutions d'enseignement supérieur au Nigeria. Depuis des années, la grève a désorganisé le système d'enseignement supérieur du pays. Le calendrier académique est très irrégulier du fait de grèves successives. Wina Moro est en 5e année de médecine.
J'accuse d'abord le gouvernement qui ne respecte pas les accords qu'il a signés avec Assou. Il donne son accord et après, il revient sur sa décision pour dire non. Ensuite, j'accuse le syndicat des enseignants qui va en grève juste pour certains bénéfices.
Le pays compte 90 universités publiques, dont 43 universités fédérales et 47 universités d'État. Les enseignants dénoncent, entre autres, le manque d'investissement dans l'enseignement supérieur au Nigeria, qui impacte négativement la qualité d'enseignement. En plus, de nombreux projets sont inachevés. C'est le cas de la faculté d'agronomie en construction sur ce campus depuis quelques années. Cette grève, lancée le 5 novembre par Assou, l'intersyndicale des enseignants d'université, est la dernière d'une série d'actions menées par le syndicat ces dernières années. Le professeur Biodun Ogunyemi est son président.
Nous sommes en grève parce que le gouvernement n'a pas respecté ses engagements. Depuis 2009, nous avons signé un accord avec le gouvernement pour voir comment on pouvait repositionner les universités publiques nigérianes en vue d'une reconnaissance internationale. Nous avons discuté de la possibilité d'obtenir des fonds nécessaires pour nos besoins.
Contrairement à la NLC, la puissante centrale syndicale des travailleurs du Nigeria, qui a suspendu son mot d'ordre de grève après un accord avec l'État il y a 2 semaines, les enseignants d'université sont toujours à la table de négociation avec le gouvernement fédéral. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest toujours, procès du putsch manqué de 2015 au Burkina Faso. Le général Gilbert Diendéré a mis en cause les chefs de l'armée qui ont témoigné contre lui. C'était hier à Ouagadougou, au 3e jour de sa comparution devant un tribunal militaire. Éric Maniraquiza.
Leur place est à côté de nous, dans le box des accusés, a lancé à la cour le général Diendéré. Considéré comme le cerveau du coup d'État, l'ex-chef du régiment de sécurité présidentielle RSP, l'unité d'élite de l'armée derrière le coup, nie farouchement être à l'origine du coup de force raté de 2015, bien qu'il ait pris la tête du Conseil national pour la démocratie, organe dirigeant des putschistes. Tout en ignorant le commanditaire, le général Diendéré a estimé que toute la hiérarchie militaire était impliquée, notamment l'ancien chef d'état-major général, le général Pengré Noma Zagré, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le colonel-major Alassane Moné. Le parquet a présenté à l'audience une proclamation du coup d'État retrouvée dans l'ordinateur du général Diendéré, mais qu'il ne reconnaît pas. Au total, 84 accusés sont jugés devant un tribunal militaire à Ouagadougou depuis le début du procès en février. Plusieurs sous-officiers l'ont cependant désigné lors de leur comparution comme le chef des putschistes. Face à la pression populaire et à l'armée loyaliste, le général Diendéré avait finalement rendu le pouvoir.
Et vous terminez en Gambie, le gouvernement a ordonné mercredi la relance de l'instruction judiciaire à l'encontre de 5 policiers accusés du meurtre de 3 jeunes manifestants au cours d'un rassemblement anti-pollution. Et ce, conformément aux recommandations d'une commission d'enquête établie par le président Obama Barrow. Les policiers avaient tiré à balles réelles sur les manifestants, en tuant 2 et en blessant 5 autres. Un troisième manifestant a ensuite succombé à ses blessures. 16 policiers avaient par ailleurs été blessés. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.